Quel scénario avait-il en tête? Samedi matin, le chef de la milice Wagner fait une annonce surréaliste susceptible de changer le cours de l'histoire de la Russie.
Nous sommes au quartier général militaire de Rostov. Il est 7h30, nous contrôlons toute la zone.
En quelques heures et sans un coup de feu, les hommes d'Evgeny Prigojine orchestrent un coup de force contre le commandement militaire russe. Des colonnes de véhicules blindés et de chars foncent même en direction de Moscou, où des barrages sont mis en place à la va-vite. Vladimir Poutine prend alors la parole.
Nous sommes confrontés à une trahison. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple.
En fin d'après-midi, coup de théâtre. Le patron de Wagner donne l'ordre à ses mercenaires de rebrousser chemin pour éviter des pertes humaines, assure-t-il.
C'est le moment où le sang risque de couler. C'est pourquoi nous faisons reculer nos colonnes.
Pourquoi Evgeny Prigojine a-t-il mis fin à sa rébellion? Qu'a-t-il négocié avec le Kremlin et son allié Bélarus? Encore beaucoup d'interrogations sur une journée aussi historique que chaotique, suivie heure par heure par toutes les chancelleries.
Ce qui s'est passé ces deux derniers jours montre que la guerre contre l'Ukraine fait craquer le pouvoir russe et affecte son système politique.
Alors que Moscou s'efforce d'afficher un retour à la normale, le régime de Vladimir Poutine sort-il fragilisé de cette crise? Le président russe peut-il finir par tomber?
Yevgeny Prigojine, c'est le maître de la propagande. Et ce n'est pas une vidéo, c'est un audio, un fichier audio qui a été diffusé en deux parties. Où il y a un montage, donc ce sont deux enregistrements différents.
Enregistré aujourd'hui?
On ne sait pas. Il faut voir les détails du fichier pour l'analyser. Dans ce fichier, effectivement, il en revient à sa version, comme quoi il avait une dent contre le ministère de la Défense uniquement. C'est-à-dire, nommément, le ministre de la Défense Sergueï Shoigu, Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des armées, qu'il accusait donc de vouloir intégrer les compagnies privées, les sociétés militaires privées, à l'armée régulière et mettre au pas les sociétés militaires privées par ce geste. Cela me fait penser un petit peu à une situation qui était localement survenue dans le Donbass, pardon, je fais un peu une digression, mais c'est juste pour un élément de contexte. Lorsque l'armée russe ayant organisé l'invasion du Donbass par les groupes mercenaires, où Wagner était aussi présent, il y avait au tout début, en 2014, beaucoup de bataillons qui ont ensuite été intégrés à l'armée régulière russe. Et il y avait des rébellions comme ça. Je connais personnellement un commandant dont le bataillon s'est rébellé, c'est le commandant du film documentaire que j'ai tourné, Le Choix de l'Aigle, qui n'a pas voulu à ce moment-là être intégré et sa tête avait été mise à prix. Donc c'est un scénario qui existe dans l'armée russe. Enfin, en tout cas, dans l'armée russe. Dans la Russie de Vladimir Poutine.
Est-ce que l'homme, d'abord, c'est pas 25 000 hommes en paquet à Rostov. C'est 25 000 hommes répartis sur l'ensemble du territoire. Il y a toute une série de sites où ils recrutaient. Donc on va dire qu'il avait à disposition, les chiffres aujourd'hui, on les connaît à peu près, c'est 2, 3, 4 000 hommes grand maximum, avec une centaine de véhicules. Bien évidemment, vous ne prenez pas une ville comme Moscou et vous ne prenez pas le pouvoir au Kremlin si vous avez 1 000 hommes ou 2 000 hommes. C'est absolument impensable. Moi, ce que je pense, c'est que simplement, vous savez, Prigojine, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur, et il sent les choses. Et en fait, il y avait du mou quelque part. C'était pas du dur, vous voyez, c'était du mou.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Mais en fait, il arrive à Rostov et il rentre à Rostov. Alors évidemment,
Très facilement en plus.
Oui, mais Rostov, en même temps, c'est le PC de l'ensemble qui gère l'ensemble des opérations en Ukraine. Donc c'est un état-major. Ce ne sont pas des forces opérationnelles, c'est un état-major, c'est la logistique, c'est des médecins, etc. Donc c'est du mou. Donc il est là, puis il vient régulièrement parce que c'est là que ça se passe. Donc il connaît très bien l'endroit. Donc il y rentre, il est là. Puis après, il se met à menacer Shoigu, il ne menace pas Poutine au passage.
Shoigu, le ministre de la Défense.
Il dit voilà, il faut qu'il parte absolument, etc. Et ça ne se passe pas. Et puis, comme c'est un énergique, c'est un sanguin quelque part, on l'a vu pendant des mois et des mois éructer sur Telegram, sur ses chaînes de télévision. Et donc, il décide de menacer, en tout cas, vous savez, c'est un geste d'enfant quelque part. Donc, il monte. Alors, c'est vrai que c'est comme 1 000 hommes, il y a des véhicules, c'est menaçant. Mais quelque part, s'il avait voulu faire ça, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je veux dire que la marche mussolinienne, c'est en 1922. C'est pas l'époque. Aujourd'hui, il y a des avions, des hélicoptères, il y a des forces spéciales, ça bombarde de l'intérieur, ça expose vous voyez, on maîtrise la communication. Pas du tout. Ouais. C'est un truc à l'ancienne. Vous voyez, il monte comme ça en direction du nord. Ouais. Alors, ça aurait pu fonctionner, mais il n'avait en aucun cas les moyens de renverser le pouvoir au Kremlin.
Il avait sans doute pris un certain nombre d'assurances, notamment chez les généraux qui commandent les différentes régions. Il avait probablement reçu des bonnes paroles. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui avait permis aux Américains qui écoutent absolument tout de par le monde d'avoir vent que quelque chose se préparait. Puisqu'apparemment, les services américains le savaient. Et il est bien possible aussi que les États-Unis d'Amérique, qui n'avaient pas envie de voir un chaos s'installer en Russie, c'est-à-dire la Russie se décomposer, pays qui a 6000 têtes nucléaires, donc comment pourrait-on avoir une décomposition de ce pays sans que ce soit extrêmement dangereux? Peut-être ont-ils prévenu le Kremlin la veille, peut-être ont-ils prévenu Patrouchev, puisque...
Patrouchev,
c'est le secrétaire du Conseil de sécurité, qui a été le successeur de Poutine au FSB, donc au renseignement intérieur, successeur du KGB. Et Patrouchev est grosso modo le numéro 2 du régime. Et il parle assez souvent avec M. Burns, qui est le patron de la CIA, ancien ambassadeur à Moscou. Et ils se parlent. Ils se parlent pour éviter le pire. Et probablement qu'un contact a eu lieu. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en effet, Poutine n'ait pas immédiatement réagi, qu'il ait laissé en fait cette colonne monter jusqu'à Voronej et même un peu au-delà, avant de réagir par son discours, son discours très dur, disant que naturellement les rebelles seraient châtiés, seraient fusillés.
Et il y a eu deux niveaux dans votre question. Le premier niveau, c'est l'accord. Parce qu'il y a un accord qui a été négocié avec Loukachenko, donc c'est un point très important. Moi, j'ai eu l'occasion de voir cet accord qui est assez liminaire, où il n'y a pas grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a envoyé. Donc j'ai une espèce de diatribe sur les conditions que vous évoquez à l'instant. Par contre, évidemment, il y a des conditions secrètes que personne ne connaît. Il y a la partie visible et la partie invisible, comme toujours. La partie invisible est totalement inconnue. Et c'est la suite de Wagner, c'est la suite de Prigogine. Dans la partie visible, on dit, faut que tu rentres, tu vas aller en Biélorussie. C'est extrêmement, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Donc le premier point, c'est qu'il y a une partie visible qui protège Prigogine et qui en fait autorise la dissolution entre guillemets de Wagner, qui va donc signer des contrats avec les gens de Wagner, vont signer des contrats pour rejoindre ceux qui le veulent, vont rejoindre l'armée russe. Le deuxième point, répondre à votre question, c'est qu'il risque quoi? Il risque d'être jeté par la fenêtre, par la première fenêtre qui va tout.
Empoisonné.
Il va lui aura un thé comme ça, marqué 28 sur un mug, et puis il va y passer. Peut-être que je touche pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, du coup, ne touchez pas vos verres. Ce que je veux vous dire, c'est que, du coup, personne ne sait. Cet homme est en danger. Je veux dire que, quelque part, il s'est exposé. Et avec Poutine, on sait que les opposants, en général, ne durent pas très longtemps. Ceci étant dit, Prigogine, c'est comme une brute. C'est pas n'importe qui. C'est un homme puissant qui est riche. Donc, il a la capacité, encore une fois, et de menacer le pouvoir et Poutine, et également s'auto-protéger.
Pourquoi je disais qui veut la tête de Vladimir Poutine est crucial, parce que il y a des forces qui veulent prendre le contrôle de la situation tout en haut du pouvoir. Ça, je pense que c'est assez clair. C'est pour ça que je contextualisais la façade tout à l'heure lorsque je disais il continue de viser Shoigu et Gerasimov, c'est-à-dire que ce sont des scénarios qui existent dans le monde réel. Maintenant, encore une fois, sur le ton de cette audio, j'y reviens, c'est très important. Sur ce qu'il a dit
aujourd'hui,
diffusé en tout cas aujourd'hui, ce qu'il a dit avant de marcher sur Moscou, et qui était autrement plus, je dirais, si je puis dire, en parlant de Prigogine, sincère dans les déclarations, et direct et franc, parce que le message d'aujourd'hui était beaucoup plus contrôlé et écrit. Là, il disait, le clan des oligarques, en fait, il a démonté en bloc le mythe de dénazification de l'Ukraine, qui est quand même celui dans lequel Vladimir Poutine a plongé la Russie.
À partir duquel il a justifié l'agression
russe. Les Russes croient que leur pays dénazifie l'Ukraine. Yevgeny Prigogine était là pour dire non, c'est pas vrai.
Et qui a-t-il incriminé?
C'était parce que cette guerre profite au clan des oligarques et profite au général qui voulait gagner une étoile sur ses épaules. Le clan des oligarques, le clan de Saint-Pétersbourg, ceux dont il dit s'être fait construire des hôpitaux pour soigner leur cancer parce qu'ils sont complètement paranoïaques, là, il parle du clan de Vladimir Poutine. Je veux dire, c'est pas rien. Donc aujourd'hui, il revient avec un message beaucoup plus lissé, beaucoup plus polissé, où il dit alors en fait, non, il y a une attaque sur notre, sur nos positions. Cette attaque, elle, elle soulève encore beaucoup de questions. Hein, n'oublions pas, le renseignement américain a l'air de ne pas vraiment croire à cette version. Donc il y a ce scénario tout d'un coup qui revient sur la table. Le discours est lissé. Voilà, tout le monde rentre dans son camp de base. Donc il faut vraiment être encore une fois prudent sur qui est visé dans cette opération.
Claude. Poutine est affaibli, mais je pense qu'il a encore pas mal de réserves. D'abord parce que il va vouloir revenir sur son narratif de l'opération spéciale en Ukraine, que en effet Prigojine a essayé de mettre à mal en disant tout ça c'est bidon, c'est pas du tout ça, c'est une vraie guerre, etc. Et Poutine va probablement s'en tenir à son récit parce qu'il a un objectif, c'est d'être réélu au mois de mars prochain. Il y a des élections en Russie, et il veut absolument être réélu. Certes, c'est M. Loukachenko qui a mené la négociation, mais pas tout seul. On sait maintenant qu'il y avait trois membres très importants de l'establishment poutinien du Kremlin qui ont pris part à cette négociation. Le chef de l'administration du Kremlin, M. Vaïno, M. Patrouchev, le même, qui est le chef en gros, de tous les services secrets russes, et l'ambassadeur russe en Biélorussie, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, qui s'appelle M. Grizlov. Et que tous les trois ont passé toute la journée à négocier. Loukachenko est probablement dans l'incapacité intellectuel de négocier un accord aussi précis avec toutes les clauses qu'on ne connaît pas, les clauses secrètes qu'on ne connaît pas. Les clauses qu'on connaît, c'est que, évidemment, Prigojine a sauvé sa peau, qu'il a peut-être sauvé son business. Le business en Afrique va continuer. Oui. La holding à Saint-Pétersbourg.
Il y a des biens qui ont été, saisis.
Oui, on a.
En fait, c'est un peu réducteur, parce qu'en fait, c'est quoi Wagner? Wagner, c'est rien du tout. D'ailleurs, Wagner n'a pas de statut, c'est pas une société. En fait, le problème, il faut remonter à la tête du système, c'est la holding qui s'appelle Concorde. Concorde est basée, et ça, c'est vraiment la maison mère de Prigojine. Et Prigojine a quatre métiers, il n'a pas un seul métier. Wagner n'est qu'un des métiers. Il y a trois autres métiers. Un, c'est l'alimentaire. Donc, c'est lui qui nourrit la moitié de l'armée russe, etc., etc. Le deuxième chose, c'est tout ce qui est
propagande.
Influence, propagande, etc., avec, bon, vous connaissez Riafan, et puis l'Ira, etc., donc des structures, usines à troll, etc., donc c'est extrêmement performant, en Afrique principalement, et le troisième, le quatrième métier, c'est le métier du business, c'est qu'en fait, il y a une myriade de petites sociétés qui ont négocié dans les pays, les États africains, au cas par cas, le pétrole, le gaz, l'or, etc., et donc il y a des revenus considérables. Ouais. Donc en fait, le biotope,
si vous voulez,
Wagner, c'est un biotope qui s'appelle Concorde, et c'est Prigojine, et il gère cet ensemble.
Il faut vraiment se garder de tirer des conclusions maintenant. Fragilité temporaire, élection de l'année prochaine. La Russie a fait face à une tentative de coup d'État. C'est extrêmement grave. Les chaînes de télévision, depuis vendredi soir, russes, diffusent, les présentateurs diffusent des communiqués officiels. Il y a des films d'archives, des reportages, culture, société, et tous les... des propagandistes du régime, des dignitaires du régime qui sont là pour dire tout va bien, la situation est sous contrôle, il n'y a rien qui dépasse. Ils font des débats à longueur de journée pour vous parler de la dénazification de l'Ukraine. Il n'y a rien qui dépasse aujourd'hui. Ils sont en train de serrer les vis. Ce qui s'est passé là est extrêmement grave. Le régime est déstabilisé. On ne sait pas encore ce qui s'est passé au niveau du scénario. On ne peut pas faire des affirmations. Il faut juste suivre la situation, essayer d'écouter les sources intelligence, parce que c'est ce qui va nous permettre d'en savoir plus. Et c'est un scénario qui va durer encore.
24 heures, donc c'est un peu court pour que le soldat qui se bat sur le front soit vraiment dérangé. Alors effectivement, les officiers en discutent beaucoup.
Oui.
Et on ne sait pas aussi quels sont les officiers qui avaient envie de se rallier éventuellement aux rebelles. Et je crois qu'aujourd'hui, M. Poutine et M. Patrouchev sont assis en train de regarder exactement tous les généraux un par un, tous les gouverneurs un par un, pour savoir quels sont ceux que l'on peut soupçonner.
Donc une
loyauté
totalement fidèle.
Il y avait une purge.
Et d'ailleurs, c'est obligatoire, sinon il perd totalement son crédit.
Il perd son pouvoir, il faut qu'il mette un tour de vis. Donc il y aura un tour de vis, je dirais, par rapport à la population. Il faut savoir qu'actuellement, le système russe est un système de lutte antiterroriste, donc ça donne des pouvoirs énormes à la police, etc., et donc à tout système sécuritaire pour contrôler les gens, etc. Et sur le front, il va y avoir une espèce de contrôle généralisé, comme vous l'évoquiez à l'instant, fort justement, où ils vont vérifier qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Donc il va y avoir un tour de vis, et malheureusement, sur le front, moi, j'attends une espèce de durcissement des opérations où ils vont accentuer le système, parce que sinon, Poutine, il va perdre la face quelque part.
Ce qu'ils ont tous, c'est quand même Joe Biden. Et on sait que Joe Biden ne veut surtout pas que le chaos s'établisse en Russie, comme je l'ai dit tout à l'heure.